C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
À la fin du XVe siècle, la France est le royaume le plus puissant d'Europe. On le sait tous et toutes, ses voisins sont affaiblis. L'Angleterre sort tout juste de la guerre des Deux Roses. Le Saint-Empire germanique, tel qu'on l'appelait alors, est fortement morcelé. L'Espagne est divisée en plusieurs royaumes et l'Italie, quant à elle, n'est qu'une somme de petits états dont le seul point commun est la langue. Le XVe siècle terminé, le roi du royaume de France, François Ier, qui succède à Louis XII en janvier 1515, va participer à une innovation qui nous impacte encore aujourd'hui, et pas qu'un peu, en créant avec d'autres le premier numéro de téléphone 1515 Marignan. Autour de moi, pour explorer ce fait historique majeur, la fine équipe de l'histoire pour un grand I, les trois historiens, Thierry Lafleur, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, très bien, merci.
Parfait, vous êtes accompagné aujourd'hui d'Alexandre Robelin.
Bonjour.
C'est bien Robelin, c'est pas Robelin.
C'est Robelin, oui.
Robelin, parfait.
Merci.
Et bien sûr le fabuleux Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
L'histoire, avec un grand I, sur Prune.
Alors 1515 Marignan, pourquoi François 1er choisit-il ce numéro? Pourquoi pas le numéro 1 tout premier? C'était tout simplement le tout premier. Thierry Lafleur, est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, alors 1515, donc en effet, premier numéro de téléphone d'information donc pour le peuple, justement s'il avait des questions à poser à Sa Majesté, voilà, ou à la reine aussi également, qui était pas mal sollicitée par le numéro 1515 Marignan. 1515 Marignan, tout simplement parce que tout le monde s'en souvenait. Voilà. Je pense que, enfin voilà, mes confrères seront d'accord.
Mais même encore aujourd'hui, on voit que c'est les restes. Encore aujourd'hui, tout le monde se souvient de 1515 Marignan.
Exactement, tout le monde.
Et donc déjà, à l'époque, c'était un franc succès. On se souvient de l'appel de Robespierre au roi pour lui poser une question d'une majeure importance et qui a après façonné l'histoire politique de tout notre pays, en fait. Et on a des répercussions jusqu'aujourd'hui.
Il lui a demandé, sommes-nous une république?
Tout à fait.
Exactement.
Et ce à quoi le roi a répondu, non. Et ce qui a lancé, évidemment, la Révolution française.
Voilà. Ouais. Et c'était assez incroyable de voir que Robespierre, donc lui-même, utilise le 1515 Marignan alors qu'il avait une ligne directe vers le roi.
Oui.
Il avait une ligne directe vers le roi et pourtant.
Il utilise le 1515 Marignan.
Voilà, exactement.
Et c'est un symbole aussi. C'est un symbole du fait que le peuple peut doit en appeler au gouvernement.
Non, c'était vraiment un symbole fort et c'est la preuve justement que voilà, c'était un numéro pour tout le monde. Donc voilà pourquoi 1515 Marignan.
Ok, mais vous parliez justement aussi que cette ligne, elle arrivait jusqu'à la reine. Qu'est-ce que la reine faisait de particulier avec ce numéro de téléphone?
Oui, alors les questions qui étaient redirigées vers la reine étaient des questions surtout de l'ordre de la logistique. Parce que la reine à l'époque, donc le roi s'occupait beaucoup des affaires étrangères, la reine s'occupait beaucoup de ce qui se passait dans les rues, finalement, dans les rues des villes de France, dans les rues de Paris. Et donc elle a été beaucoup sollicitée, justement, pour traiter ces questions, on va dire, mineures, mais qui aujourd'hui s'avèrent être très importantes.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, vous parliez de Marie-Antoinette qui s'occupait de l'intérieur du pays. C'est aussi elle qui a mis le premier service de calèche, de transport en calèche dans les rues de Paris. Et le numéro 1515 servait à ça à la base. Les gens appelaient pour commander une calèche pour les emmener d'un point A à un point B. Et c'est aujourd'hui grâce à ça qu'on connaît les taxis. Les taxis de Paris, en fait, sont basés sur ce concept.
François Ier faisait d'entière confiance à Marie-Antoinette sur le sujet, en tout cas.
Tout à fait.
Tout à fait.
Ok. Et moi, en faisant un peu de recherche sur le sujet avec mon équipe, il y a quand même quelque chose qui m'a marqué. C'est que c'est un numéro de téléphone avec des lettres. 1515 Marignan.
Alors non. Surtout, attention, ne faites pas d'erreur. Les téléphones à l'époque étaient beaucoup plus primaires. À l'époque de François Ier, vraiment le téléphone, on était à ses tout débuts. On pouvait seulement mettre des numéros. On ne pouvait pas écrire hein, comme aujourd'hui avec les SMS ou les textos. Le 1515 Marignan, il fallait composer le 1515 puis dire Marignan.
Ah, d'accord.
Oui, voilà,
et
voilà.
Par la suite. Une idée qui a été abandonnée, mais pendant un court moment, il y a eu un numéro, un chiffre, qui était le Marignan. Donc ça allait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Marignan. Et ça a été abandonné. Mais,
c'était très très confusant.
Parce qu'on n'a que 10 doigts.
Oui.
Que, du coup, le Marignan venait s'insérer entre le 9 et le 10, mais vu qu'on n'y avait que 10 doigts, c'est problématique.
Il aurait fallu supprimer le 10, mais ça aurait été un...
Ça aurait été un... Ouais, il y a eu
Il y a eu le disque qui a été supprimé.
Je dis ça.
Ça aurait été. Au Moyen-Âge, le disque a été supprimé.
Oui. Après, il a été réintégré et je pense que c'est pour le mieux.
Pour le mieux.
Beaucoup d'erreurs qui ont été faites pendant le Moyen-Âge qui aujourd'hui ont été réparées, heureusement.
D'accord. Et donc, à l'époque, si je résume, le peuple utilise ce canal de communication, parce que c'est un canal de communication privilégié, pour contacter le roi, la reine, poser des questions. Quand on dit le peuple, c'est qui ?
C'est une question intéressante, parce que en effet, tout le monde n'avait pas de téléphone, et alors il n'était pas forcément réservé aux plus aisés, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'était un tirage au sort qui était réalisé chaque année. Donc chaque 1er janvier, un tirage au sort était effectué pour donner des téléphones, finalement.
Ok, tout donc quelqu'un qui aurait pu avoir le téléphone, je ne sais pas, en année 1516, parce que c'est quelque chose qui a perduré dans le temps, pouvait le perdre en année 1517.
Ah oui, on avait le téléphone que pour un an.
Voilà, par village. Dans chaque village, une personne avait un téléphone. On savait qui c'était. Il était désigné comme la personne avec le téléphone. Vous pouvez contacter le reste de la France, hein, parce que ça se limitait uniquement à la France, évidemment. Et du coup, tout le village savait qui contacter. Voilà.
On l'appelait le téléphonio dans les villages, en fait. C'était son nom. Et ça a donné d'ailleurs lieu à... Moi qui aime beaucoup l'art et les tableaux, ça a donné lieu à beaucoup de tableaux qui sont appelés l'arrivée du téléphone au village de... Mmh. On se souvient du tableau très célèbre, l'arrivée du téléphone au village de Saint-Quentin-sur-Seine, ou l'arrivée du téléphone au village de Tiffé-les-Oies. C'est un village alsacien. Oui. Et voilà, il y a eu beaucoup un grand cours artistique autour de l'arrivée du téléphone, en fait.
Ouais, et puis, il y a vraiment des portraits de téléphoniaux, mais à couper le souffle.
Oui.
Ça donnait à ces petites gens, finalement, qu'ils étaient à l'époque des gens du peuple, ça leur donnait une forme de pouvoir, une forme de reconnaissance qui vraiment les sublimait. Enfin, en tout cas, on le voit sur les peintures.
Tout à fait. En fait, il y avait un habit qui était donné au téléphonio aussi pour qu'on le reconnaisse dans le village. Et donc, il avait son costume de téléphonio, qui est un grand costume bleu avec beaucoup de franges et de voluptés qui partent du vêtement.
Okay, quel était, on va dire, l'impact sociétal ou... C'est pas anodin de recevoir un téléphone et d'être nommé téléphonio de son village.
Bien sûr. Dans les villages, on a vraiment eu le système du village est venu être rééquilibré. On avait jusque-là le bourgmestre, on avait le prêtre du village. Et c'est vrai que cette espèce d'entité à deux têtes a été un peu bousculée par l'arrivée du porteur du téléphonio qui est devenu vraiment le troisième... Troisième larron du village, quoi. Un système à trois têtes cette fois-ci, quoi.
Et alors, c'était une position quand même assez délicate parce que, justement, précaire. C'est-à-dire que déjà que ça changeait tous les ans, on ne pouvait pas le garder plus d'un an. Il se pouvait qu'en cours d'année, on se voit retirer le titre de téléphonio. Notamment en cas de non-respect du matériel et d'oubli. C'est pour ça que le numéro aujourd'hui 1515 Marignan est resté, c'est qu'il ne fallait surtout pas l'oublier.
Oui.
Des cas assez rares à la marge. Hein.
Ouais, bien sûr. Alors, il y a eu aussi. On s'en souvient tous, le cas de Thomas Tiber.
Oui, il y a un livre là-dessus très intéressant.
Ouais, très, très intéressant.
Thomas Tiber.
Ouais, qui a inventé ce qui est aujourd'hui le prank téléphonique, parce qu'il a appelé le roi et il lui a fait un canular. Vas-y.
Il lui a fait un canular, il l'a appelé, il a dit Monsieur François Ier. Les Anglais sont dans la Somme.
Et après, il a dit, je t'ai bien eu, c'était un prank.
Et comment a réagi François Ier?
Il s'est vu instantanément retirer son titre de téléphonie. Enfin, je dis instantanément, 10 jours plus tard, quand même, François Ier avait avancé ses troupes dans la Somme. Et c'est... Pardon, excusez-moi. C'était un bon prank. C'est seulement 10 jours plus tard que la supercherie a été dévoilée. Les troupes étaient déjà dans la Somme. Et donc voilà, il s'est vu retirer son titre de téléphonio, le téléphone et la tunique, et absolument tout.
Rigole, mais ce fait, bien que plutôt drôle, marque quand même la fin du... Enfin, quand même un des faits fondateurs de la fin de père.
Pardon ?
Oui. Et je reprends.
Oui, allez-y.
On l'oublie souvent quand même, mais cet événement marque quand même la fin du règne de François Ier.
Ah oui, c'est vrai. Mais ça, dans le livre que vous évoquez tout à l'heure, c'est très, très bien évoqué. François Thibert, en fait, a perdu son titre de téléphonio.
Thibaut Thibert. Le cas Thomas...
Monsieur Thibert a perdu son titre de téléphonio. Et il a été par la suite guillotiné.
Mm-hmm.
Bon, alors pour toute autre raison, il avait commis un larcin. Mais ça marque quand même un tournant, ce cas-là.
Oui, parce que vous dites ça marque la fin, mais non, ça marque le début de la fin du règne de François Ier. Enfin, ça n'a pas été instantané. C'est vrai que l'épisode malheureux des troupes avancées dans la Somme, alors que, comme tout le monde le sait, il n'y a rien, absolument rien dans la Somme.
Non, sure. Rien.
Et sûrement par des Anglais. Voilà, ça a marqué vraiment le début de la perte de la confiance du peuple en François Ier.
Et d'ailleurs, on parle de ce canular comme étant un cas isolé, mais après, on ne parle pas, l'histoire a un peu oublié que moult canulars ont suivi, toujours la même chose quasiment, hein. François, attention, il se passe des choses dans la Somme.
Ça a duré.
Oui, c'est vrai que c'était un peu le premier canular d'une suite de longs canulars dans l'histoire. C'est l'heure de la première pause musicale et on reviendra avec François Ier juste après. Et nous revoilà dans l'histoire pour un grand I avec nos trois historiens favoris, Thierry Lafleur, Alexandre Robelin et Julien Marel. On évoquait justement le fait de François Ier qui a été déstabilisé par l'usage fait par son peuple du premier numéro de téléphone, le 1515 Marignan. Marignan ne faisant pas partie du numéro de téléphone, vous l'avez bien rappelé, Monsieur Lafleur, c'était la commande à évoquer à la voix. On parlait de cet impact en disant, bah, voilà, il y a eu ce premier prank qui a vraiment déstabilisé le roi. Et après, vous alliez continuer là-dessus, Monsieur Robelin, sur bah, toute la période qui a suivi vraiment de déstabilisation du royaume.
Faut remettre dans son contexte les choses. 1515 Marignan, on sort, du coup, vous l'aviez dit, d'une période de guerre qui disloque totalement l'Europe, du moins ce qu'on est l'Europe aujourd'hui, ce qu'on peut appeler l'Europe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le numéro avait été mis en place. À la base, c'était pour, parce que les gens se posaient des questions. Qu'est-ce que la France? Qu'est-ce que l'Espagne? Qu'est-ce que l'Italie? Qu'est-ce que,
bah, sur... qu'est-ce que l'Italie?
Bien sûr,
surtout,
hein. Surtout qu'est-ce que l'Italie?
C'est
un bordel, enfin, je veux dire.
Voilà. C'est beaucoup.
Enfin, c'était n'importe quoi, tout était disloqué, ils ont plein de petites villes, de petits royaumes dans tous les sens. Et l'Italie majoritairement. Voilà, quand les gens voulaient passer des vacances en Italie, ils étaient un peu perdus. Alors du coup, ils devaient appeler le 1515 Marignan et on leur répondait Parme, où en est Parme? Et le roi répondait Parme est stable. Souvent, ou Parme n'est pas stable, ou vous pouvez aller à Parme, n'allez pas à Parme. Qu'est-ce qu'il faut mettre à Parme l'été? Qu'est-ce que... Enfin bref, plein de toutes ces questions qui d'ordre comment dire qui géographique, géopolitique,
parce qu'il y avait aussi des sûr, informations sur la météo,
bien sûr, bien sûr.
Sur l'affluence des lieux.
Mais ça du coup, voilà, tout ce qui était de l'ordre des autres pays était pour le roi. Et comme je disais tout à l'heure, quand c'était interne à la France, parce que les gens voulaient partir en vacances, des fois, juste dans le sud de la France,
dans le Périgord par exemple.
Et par exemple le Périgord. Et là à ce moment-là, c'était bien la reine qui répondait. Voilà, les choses étaient bien séparées.
J'allais vous poser une question aussi qui, moi, m'a surpris encore dans mes différentes recherches avec mon équipe. 1515, c'est un peu aussi, par ailleurs, une guerre marquante. Pourquoi ces deux événements arrivent à la même date? Qu'est-ce qui fait que, vous savez, dans l'histoire, rien n'est comme ça anodin. Il n'y a pas d'invention qui sort de nulle part, il n'y a pas de hasard. Pourquoi à la fois on a une grosse bataille, 1515, et le premier numéro de téléphone en 1515?
Alors, je peux répondre parce que c'est un peu un domaine que je maîtrise à la perfection. J'ai fait ma thèse là-dessus. Alors, en fait, il faut savoir que Marignan, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas une ville, c'est une personne. Et donc, la bataille de Marignan, en fait, c'est une seule personne qui s'est battue contre l'État français en entier. C'était un Hollandais qui a déclaré la guerre à la France, mais en son nom propre, hein, pas au nom des Pays-Bas. Et il est arrivé en France pour commencer une bataille. La France était sur le point de perdre, en fait, en 1514. La France était sur le point de perdre face à Marignan, Joseph de son prénom, Joseph Marignan. Il était très intelligent.
Insaisissable, vraiment. Enfin, il y a un très bon docu-fiction là-dessus. Je vous invite à le regarder. Marignan l'insaisissable. Et vraiment, oui, c'est très très intéressant de le regarder. C'était vraiment une personne incroyable.
Il était surnommé Ilk en Hollande, qui signifie l'anguille. Donc c'était Joseph Ilk Marignan. Et donc il a failli gagner la guerre contre la France. Justement, le gouvernement à l'époque a réussi à déjouer sa dernière stratagème qui a mené lieu à la bataille de Marignan. Et là, il s'est fait attraper. Bon, 10 000 contre 1, il s'est fait bien sûr abattre. Instantanément, il a perdu tout de suite. Mais c'est quelque chose qui est resté très, 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 très marqué dans les esprits des gens. Et surtout, on se souvient de lui comme quelqu'un de très intelligent. Et le roi a voulu que l'intelligence de Joseph Ilk Marignan rejaillisse sur lui. Et pour toute cette intelligence, il l'a mis dans le numéro de téléphone. Et du coup, voilà, c'est quelque chose d'intelligent. Le Marignan, c'est quelque chose d'intelligent dans l'imaginaire collectif.
Et en fait, l'idée du téléphone vient de justement cette longue guerre qui a été menée contre Marignan. Puisque pour repérer Marignan finalement dans le royaume de France, parce que voilà, il se cachait à peu près partout dans le royaume de France, souvent, la localisation de Marignan arrivait trop tard aux forces armées. On utilisait des pigeons voyageurs à l'époque. Et une fois que le pigeon était arrivé, Marignan avait changé d'endroit. L'invention du téléphone et la présence d'un téléphonier dans chaque village ne permettaient plus. Enfin, il ne pouvait plus y avoir
c'est
de deuxième Marignan.
C'est toujours comme ça, toujours pendant les guerres, que les innovations technologiques jaillissent. Le téléphone ne déroge pas à la règle.
Non, non, non. Tout comme le poêlon à raclette.
Tout à fait.
Tout à fait.
Très bien. Donc, en fait, Monsieur Roblin, vous parliez de ce prank pour en revenir comme premier élément déstabilisateur de François Ier. Est-ce que, en fait, l'événement zéro qui a un peu réécrit les forces en pouvoir entre le peuple, le roi, c'est pas ce fameux Monsieur Hollandais qui débarque et qui tout seul décide de faire la guerre à la France et au roi par-delà.
C'est effectivement ça parlait du prank comme étant un des premiers éléments qui vient déstabiliser François Ier. Cette guerre contre Marignan, effectivement, vient déjà un peu effriter la confiance du peuple dans François Ier. Qui est ce roi qui ne peut pas mener une guerre convenable contre une personne? On rappelle que le plan de Joseph Hilke Marignan, c'était voler la couronne du roi. Voilà. Il a bien failli l'avoir. Et il était très, 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 très proche.
Ouais, il est passé très, très,
monsieur,
très, très
monsieur François ouais. Ier, François Ier était en visite dans la Somme. Et on sait tous que...
C'est un moment dur, il y a de l'émotion dans la voix de monsieur Roblin. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a pris la couronne d'apparat du roi, qui n'est pas la couronne officielle, mais qui était la couronne que le roi portait pendant les déplacements. Où il a réussi à s'en saisir, mais ça ne comptait pas, car ce n'était pas la vraie couronne du roi.
C'est un peu la dernière défense du roi contre ce genre d'initiative.
Et c'est d'ailleurs, peut-être que c'est inutile de le préciser, mais c'est suite à cette tentative, justement, qui est passée pas loin du tout, que le prank de monsieur Thibert se déroulait dans la Somme. C'est justement pour ramener François Ier face à cette première presque humiliation, finalement.
Un peu pour tourner le couteau dans
les aiguilles. Oui, voilà.
Et c'est pour ça que François Ier a foncé dedans, hein, parce que bah, voilà, il était blessé par cette défaite. Hein, et c'est pour ça qu'il a envoyé tout de suite toutes ses troupes dans la Somme.
Ok, donc là, on a vraiment quand même un événement qui se déroule en 1515 ou autour, et qui est quand même un acte fondateur de ce qu'on appellerait maintenant du reverse engineering social, de vraiment aller démonter des puissants, aujourd'hui ce serait des entreprises, ou etc., pour vraiment avec un rapport de force complètement diamétralement opposé, pour aller tout simplement les déstabiliser en notre faveur.
Voilà, mais important de noter, et on en est là peut-être encore aujourd'hui, que ça devenait toujours d'une seule personne.
C'est vraiment David contre Goliath.
Voilà, tout à fait.
Sauf que David gagne, enfin, ou en tout cas a bien failli gagner. Mais est-ce que, finalement, le fait que le téléphone a été inventé grâce à lui n'est pas une victoire en soi de David ?
On peut dire qu'on a un peu tous gagné grâce à lui.
C'est vrai, tout à fait. Mais vraiment, oui, je vous invite à étudier les œuvres respectives de ces deux hommes qui, finalement, apparaissent comme des parias de l'histoire et qui, au final, la font avancer. Peut-être contre leur gré, mais on fait avancer l'histoire.
Très bien. On arrive bientôt à la fin de l'émission et justement pour nos auditeurs et auditrices qui voudraient explorer le sujet plus en avant, vous parliez de reportages, de livres, de peintures à les voir. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes qui permettraient à notre public de pouvoir creuser le sujet encore un peu plus?
Moi, je recommanderais un superbe bouquin, je n'ai plus le titre, mais qui vient décrire une espèce de petit guide du routard de comment se déplacer en Italie. 15e siècle, qui donne hein, toutes les. Ce qu'aurait pu être le 1515 Marignan et où en sommes-nous en Italie. Mais bon, l'imprimerie n'avait pas été créée à cette époque, donc on ne pouvait pas servir de cet ouvrage. Mais voilà, ça regroupe un espèce de une petite compilation de où en était l'Italie, quelles étaient les bonnes villes pour passer des bonnes vacances, le système géopolitique en place dans chaque région, etc., etc. Très bien.
Alors moi, pour parler de cette période, j'adore l'art. Et il y a un tableau qui me vient en tête, qui est un tableau de Léopold van der Halk, qui est un célèbre peintre de Amsterdam qui a immigré en France dans les années 1517 et qui a peint Téléphonio pendu par les pieds après un prank à Marie-Antoinette. Donc c'était une humiliation en place publique d'un Téléphonio qui avait appelé Marie-Antoinette pour lui demander qui est là. Enfin, Marie-Antoinette avait demandé qui est là et le gars avait répondu Sarah. Marie-Antoinette avait ensuite dit Sarah qui, et le Téléphonio avait dit Sarah Croche et avait raccroché. Il avait été ensuite du coup pendu par les pieds. Il avait été pendu par les pieds en place publique et Léopold von der Elk était là justement pour peindre ce moment. Et donc ça, c'est un tableau superbe avec un éclairage et dans un style très 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 réaliste, mais presque qui saisit le surréalisme de la scène, voilà, de ce Téléphonio pendu par les pieds.
Voilà, moi pour surenchérir justement sur l'art, parce que j'adore l'art également, vraiment on a tout un musée dans la Somme qui est dédié au téléphone.
On a toute une section justement sur l'arrivée du téléphone et avec des costumes de Téléphonio qui sont à couper le souffle. Donc vraiment voilà, allez, je vous invite, allez dans la Somme, allez-y, courez-y, allez dans la Somme, il y a tant de choses à voir.
Si vous ne savez pas où est la Somme, vous pouvez regarder sur Google Maps si vous voulez.
Très bien, et ben il ne me reste plus qu'à vous remercier messieurs Thierry Lafleur, Alexandre Robelin, Julien Amarel. Aujourd'hui c'était 1515 Magellan, le premier numéro
Marignan.
Ce sera justement pour la prochaine émission. Allez, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine.
C'était l'histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.